Ô Dieu, nous avons besoin du renouvellement de force, du renouvellement de joie, du renouvellement d'amour. Nous nous attendons à toi pour recevoir ces grâces pour nous-mêmes et que nous puissions les transmettre autour de nous. Tu vois que nous sommes dans la dernière journée de ce premier demi-camp et que ce soir, d'autres visages seront parmi nous. Nous voudrions que tous nous qui sommes ici, nous puissions avoir ton accueil pour eux. Comme le dit ta parole, accueillez-vous les uns les autres, comme le Christ vous a reçu à la gloire de Dieu. Que personne de ceux qui viennent ne se sente lésé, mais au contraire, soit fortifié en rencontrant ceux qu'ils ne connaissent peut-être pas, mais qui les accueilleront comme s'ils s'étaient toujours connus, parce que c'est comme cela que tu fais pour nous. Nous te le demandons instamment et nous te prions, Seigneur Jésus, de nous donner d'être très humbles devant les nouveaux venus et de ne pas leur faire croire que nous savons tout, parce que nous avons été quelques jours à ton école. Que ta bénédiction repose sur la fin de ce premier demi-camp, sur ceux et qui devront nous quitter demain, que ta grâce les accompagne et que toi-même, tu nous parles encore aujourd'hui dans cette dernière journée pour certains, dans ton amour. Amen. Bien voilà, c'est vendredi matin, 19 juillet, et nous progressons dans notre étude sur les enseignements du Dieu vivant, spécialement dans le livre des Proverbes que nous étudions. Et ce matin, vous avez dans vos ateliers considéré le chapitre 12e. En commençant hier matin la deuxième partie du livre des Proverbes, c'est-à-dire le chapitre 10, je vous ai dit être bien conscient de vous avoir apporté des études bien imparfaites sur les 9 premiers chapitres de ce livre. Et je vous annonçais que dans la deuxième partie, laissez à moi-même tout ce que je pourrais vous dire serait plus faible encore que ce que vous avez entendu. Pourquoi? Parce que, au fond, c'est 660 maximes qui forment cette seconde partie pourraient faire l'objet d'une méditation particulière si on s'arrêtait, si on avait le temps de s'arrêter à chaque verset. Chaque verset pourrait donner lieu à une véritable réunion, si nous voulions sonder les Écritures comme le disait Jésus dans le chapitre 5 de l'Évangile de Jean. Mais ici au camp, il faut donc nous contenter de survoler, si vous me permettez cette expression que j'ai déjà employée ce matin, à haute altitude, les vérités contenues dans chaque verset, dans chacune de ces courtes sentences que l'Esprit Saint a voulu nous faire connaître. Et je dirai encore une fois que sans l'Esprit Saint, il sera impossible pour vous de lire ces textes avec profit. Alors, quelle sera notre demande au Seigneur, sinon qu'il nous revête de la plénitude de son esprit? Son esprit, nous l'avons reçu, mais nous voudrions qu'il puisse se manifester dans sa plénitude. Parce que si nous n'avions pas l'Esprit de Dieu, nous ne serions pas ses enfants. C'est le Saint-Esprit qui nous a régénérés, qui nous a fait naître de nouveau. Mais maintenant, il faut que ce Saint-Esprit, qui est une personne, nous remplisse, nous saisisse, et soit maître de notre intelligence, de notre volonté, de nos sentiments, de nos affections. Et l'œuvre du Saint-Esprit, quand il agit dans un cœur, ce n'est pas de se glorifier lui-même, mais c'est de glorifier qui ? Jésus. C'est de nous ramener toujours et sans cesse à Jésus. C'est là le grand secret. Le Saint-Esprit nous a été donné, non pas pour nous parler de lui-même, mais pour exalter Jésus. Lisez le chapitre 16 de l'Évangile de Jean et vous verrez que ce n'est pas moi qui invente cela. Là où le Saint-Esprit est en action, là où le Saint-Esprit agit, il met la chair, l'homme, à la croix, dans l'humiliation, dans la mort, mais il place Jésus sur le trône. Et c'est quand on contemple Jésus qu'on voit le Seigneur, qu'on cherche la face du Seigneur. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, dit l'Écriture. Eh bien, et quand on regarde vers lui, il est dit qu'on est comme illuminé ou rayonnant de joie. Mais littéralement, on est comme illuminé. Une lumière se fait et on arrive à comprendre des textes qui nous paraissaient compliqués, mystérieux, incompréhensibles. Le Saint-Esprit nous fait comprendre l'incompréhensible. C'est une de ces impossibilités que nous trouvons dans le chapitre 3 de l'Épître aux Éphésiens. Alors, c'est là notre prière. Et puis aussi, de supplier le Seigneur de nous montrer tout ce qui pourrait attrister le Saint-Esprit dans notre vie. Parce que le Saint-Esprit ne demande qu'à nous parler, qu'à nous faire éprouver la réalité de sa présence. Le Saint-Esprit veut bien être notre mémoire pour nous rappeler quotidiennement dans les difficultés de la journée des textes qui éclaireront notre chemin, notre route et qui nous montreront que vraiment ce que le psaume 119 nous dit est la vérité. Cette parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et c'est encore par cette parole qu'une conviction vous sera donnée quand vous avez peut-être deux chemins qui ne sont pas mauvais, ni l'un ni l'autre. Mais il faut choisir entre deux choses bonnes. Mais vous ne pouvez pas choisir les deux choses, comme on n'a pas pu être en même temps à la clairière des Indiens. Et puis ici, il fallait décider, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce que nous devions décider? Alors tout à coup, le Saint-Esprit vous donne une conviction. Et on n'a pas peur même de faire un peu de peine à certains, parce qu'on n'a pas abondé peut-être dans leur idée, dans leur pensée, qui que soit la personne. Nous ne connaissons personne selon la chair, quels que soient nos liens les plus intimes. Dans le Seigneur, nous vivons avec le Seigneur, nous tenons compte des désirs de tous, mais en définitive, c'est ce que le Seigneur nous montre que nous faisons. Parce que sans ça, eh bien, on est errant, on ne sait pas ce qu'on fait, on ne sait pas où on va. Et voyez-vous, le Seigneur m'a convaincu d'une chose, et c'est pour ça qu'on est toujours à son école, que celui qui agit sans conviction, mais par influence, il pêche. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Il n'y a pas seulement le péché en pensée, en parole, en acte, ou comme on le voit dans les Galates, le péché par omission, pour celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, pour lui c'est péché, quand on aurait pu faire le bien et qu'on ne le fait pas, c'est un péché, péché par omission. Et à l'âge de 18 ans, quand on croyait que je m'en irais, que je devais mourir, eh bien, c'était dans ces derniers moments où je m'endormais au début de l'opération, eh bien, j'étais écrasé par cette question. Au fond, 18 ans, tu as vécu 18 ans sur la terre, mais c'est long. Et qu'as-tu fait pour ton Seigneur? Et j'ai compris que, vraiment, si j'étais sauvé, Eh bien, c'était par grâce. C'était pas tellement le péché en parole, en pensée et en action qui pouvait me revenir, puisque je savais qu'il m'avait pardonné tout ça, mais tout à coup, ce bien que je n'avais pas fait. Au fond, les occasions manquées. Puis maintenant, ma vie se termine. Parce qu'à la mort, eh bien, nous sommes fixés pour l'éternité. Et alors, ça, oh, j'ai dit, Seigneur, si je vis encore, donne-moi de ne pas manquer les occasions. Il n'y a pas besoin de faire des choses, mais saisir les occasions qu'il a mises sur notre route. Pour celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, pour lui, c'est péché. Et puis, depuis, vous voyez, le Seigneur nous ment toujours plus. Il m'a convaincu d'un autre péché quand on agit sans conviction. Vous devez avoir une conviction. On n'impose pas les choses aux autres, mais on a une conviction personnelle et on en vit et on marche. On ne peut pas toujours être approuvé. Et je ne peux pas regarder en arrière quand j'ai dû mettre la main à la charrue. Parce que mon sillon, il ne sera pas droit. Celui qui a mis la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas propre pour le royaume des cieux de Dieu. Je vous cite le verset parce que je sais que plusieurs aiment quand même avoir la référence. Si je ne vous les ai pas toutes données, c'est pour ne pas trop allonger nos messages, mais je vous donne cette parole au verset 62, c'est le dernier verset du chapitre 9 de l'Évangile de Luc. On m'a demandé aussi quels étaient les textes que j'avais lus ce matin. Je m'excuse de ne peut-être pas vous l'avoir cité. Il semble que cette parole a touché les cœurs. Eh bien, c'était le chapitre 7 de l'Évangile de Jean, où on voit que les frères de Jésus ne croyaient pas en lui et qu'ils le poussaient avec des cœurs mauvais, alors qu'ils savaient bien que Jésus risquait sa vie, on le poussait à aller à Jérusalem, peut-être qu'on aurait dit, ben, on en sera débarrassé de ce frère gêneur. Hein. Et le Seigneur se sentait seul dans sa famille, parmi les siens, il n'était pas même compris. Et alors vous voyez, il avait besoin de monter, non pas avec ses frères, faire ce voyage de Galilée en Judée avec ses frères, ça aurait été une épreuve. Voyez-vous, dans nos épreuves, c'est souvent l'entourage qui est le plus pénible. Pour Job, ça a été l'entourage. Que dirons-nous, même sa femme, qui lui disait « Maudit Dieu et meurt ». Il n'était pas même soutenu par l'être le plus proche de son cœur. Mais il est resté dans une politesse exquise vis-à-vis de sa femme. Il lui a pas dit « tu es folle ». Moi, j'aurais certainement dit ça, comme je suis méchant, méchant, méchant. Mais Job, il a cette délicatesse. Il lui dit « tu parles comme parlerait une insensée ». Vous voyez cette délicatesse. Il ne dit pas « tu es folle », mais « tu parles comme parlerait une insensée ». Il est encore maître de lui-même, maître de ses impulsions. Et ne se fâche pas, que de choses la Bible nous enseigne. Quand on voit ces exemples, quand on commence à vouloir vivre avec tous ces patriarches, avec tous ces saints de l'ancienne alliance, parce qu'ils sont vivants, ce ne sont pas des ombres, n'est-ce pas? Dans le monde, ce sont des ombres, là, au séjour des morts, déjà. Mais pour les croyants, nous sommes environnés d'une nuée de témoins. Et Jésus nous a dit que Dieu n'était pas le Dieu des morts, mais des vivants. Le Dieu d'Abraham, mais Abraham est mort. Le Dieu d'Isaac, mais Isaac est mort. Le Dieu de Jacob, mais Jacob est mort. Mais le Seigneur dit, pour Dieu, tous sont vivants. Alors nous autres, nous nous sentons environnés de ces âmes, de ces témoins vivants, et ils nous parlent, ils sont avec nous. J'entends pas des voix d'outre-tombe. Mais leur exemple est là et parle fort et le Saint-Esprit donne à leurs paroles une consistance et une actualité surprenante. Ils deviennent pour nous des exemples, autrement dit des proverbes, hein, puisque proverbe veut dire exemple. Alors Jésus, lui, il a voulu marcher seul à Jérusalem, Il avait besoin de solitude. Bien souvent, il s'en allait même la nuit à l'écart pour être absolument seul avec son Seigneur. Et il restait là en prière parce que la tâche était lourde, la responsabilité était lourde et son temps sur la terre était court. Et notre temps aussi à nous, il est court. Quel que soit le nombre de nos années, nous devons toujours penser que notre temps est court et que demain ne nous appartient pas. Alors, vivons l'aujourd'hui de Dieu, ce qui fut un thème de nos camps précédents. Voilà, c'est donc les versets 1 à 17 de l'évangile de Jean, chapitre 7, que je vous l'ai lu ce matin. Alors, nous demandons donc que le Saint-Esprit soit libre en nous, que nous ne l'attristions pas et que nous confessions peut-être, nous confessions ce qui nous a montré, qui n'est pas droit, qui n'est pas juste, qui est tordu dans notre vie. Seigneur, donne-moi de marcher dans la lumière, donne-moi de marcher dans l'amour, donne-moi de marcher dans la paix, donne-moi de marcher dans la vérité, d'avoir en horreur le mensonge, d'appeler abomination ce que toi tu appelles abomination, d'avoir en horreur ce que toi tu as en horreur. Nous voulons vivre entièrement possédés par le Seigneur, possédés par le Saint-Esprit. Et nous voulons vivre de cette parole que le Saint-Esprit veut nous rappeler, veut illuminer devant nos yeux et dans nos cœurs. Et ce que nous demandons au Seigneur, c'est que cette parole que nous avons commencé à méditer au début de ce camp et peut-être à laquelle vous avez trouvé un goût tout à fait spécial, comme les Israélites quand ils ont été nourris de la manne, la première manne, eh bien, qu'est-ce que c'était pour eux? Et ils ont dit, c'est un gâteau au miel. Mais au bout de peu de temps, eh bien, ils étaient un peu habitués. Et c'est ce qui peut arriver dans le camp, hein. Les premières réunions, les premiers messages, oh, mais c'est bien. Puis après, tout à coup, on se dit, oui, mais ça fatigue un peu, hein. Alors, ce n'est plus ce goût du gâteau au miel, c'est le goût d'un gâteau à l'huile, comme il l'est dit dans Nombre, chapitre 11, verset 8. Le gâteau au miel, c'était Exode, chapitre 16, verset 14. Maintenant, le gâteau à l'huile, c'est Nombre 11, verset 8. Et puis, finalement, quelque temps plus tard, il s'écrit, « Notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture, ou de ce pain misérable, un pain vivant que l'on avait reçu, et puis maintenant, c'est un pain misérable, parce qu'on est habitué, la parole, on la connaît, puis on a déjà lu cela, puis ça revient là-dessus. Nombre, chapitre 21, verset 5. Alors, si vous en arrivez à avoir ce sentiment que c'est du pain misérable, attention au quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu après cette exclamation du pain misérable? Il y a eu des serpents. Ils étaient mordus. Ils avaient beau se secouer et regarder leurs blessures pour voir si ça cicatrisait. Non. Ils mouraient. Et qu'est-ce qu'il a fallu qu'ils regardent? Non pas leurs plaies, leurs blessures, mais le serpent des reins. Alors regardons à Jésus qui a été fait péché pour nous. Pourquoi pas un agneau, mais non un serpent? Parce que ce qui nous sauverait, c'est Jésus fait péché pour nous. Ne regardez pas vos péchés, regardez Jésus qui a porté vos péchés. Le serpent des reins, c'était annoncé qu'il serait fait péché. Ce qui nous a mordu, eh bien c'est lui qui l'a pris et c'est lui qui a expié nos fautes et qui a enlevé l'aiguillon de la mort qui est le péché. Le péché, c'est l'aiguillon de la mort. Ce qui fait peur dans la mort, c'est le péché. le péché, c'est l'aiguillon de la mort. Mais si le péché a été ôté, elle a été ôtée par Jésus, la mort, alors, a perdu son aiguillon. Elle a perdu son aiguillon. Alors, demandons au Seigneur que cette parole garde le goût d'un pain au miel. Et c'est plus que jamais le moment de crier au Seigneur. Ce petit cantique que j'ai essayé de vous chanter, révèle ton livre à ma foi. Rends le vivant, ô Dieu pour moi, que je m'y vois en ma laideur et dans ta beauté, mon sauveur. Et cette étude nous sera profitable seulement si nous apprenons à nous sentir concernés par le texte et si nous en faisons l'objet de notre méditation. Je ne sais pas ce qui vous a touché ce matin dans la lecture de ce chapitre 12, quel est le verset, mais je voudrais croire qu'il y a une parole qui vous a arrêté et que vous avez dit, ben, celle-là ce matin, c'est une parole pour moi dans mes propres circonstances. Et elle est pour vous une parole sur laquelle vous réfléchirez, vous vous laisserez corriger, instruire, convaincre par ces paroles. Et puis, toujours, quand l'intérêt baisse, vous repensez à Jésus et vous essayez de découvrir le visage de Jésus. Ce sera pour vous le moyen d'être édifié par chaque chapitre. Hier, au chapitre 10, nous avons vu un portrait de celui que le Nouveau Testament appelle le juste, et dont la mémoire, avons-nous lu au chapitre 10, est en bénédiction. Au chapitre 11, hier soir, nous avons trouvé un autre portrait, celui du seul homme qui pouvait être appelé bon, l'homme bon sur la terre. Verset 17. En nous souvenant de la parole de Jésus au jeune homme riche, « Pourquoi m'appelles-tu bon, un seul est bon ?» Marc 10, verset 18. Et quelqu'un m'a fait remarquer hier soir que je n'avais pas donné de nom à tous les portraits trouvés dans les 9 premiers chapitres. Je l'ai fait intentionnellement, espérant que vous-même, vous trouveriez un nom pour chaque chapitre. Ce n'est pas absolument nécessaire que vous mettiez le même nom que moi. Mais ce qui est nécessaire, c'est que vous ayez discerné un portrait de Jésus qui correspond à un fait de l'Évangile. Mais je vous dirai quand même ce que j'ai mis pour moi. Mais pas pour que vous copiez, ce n'est pas ça. Ayez des convictions pour vous. Mais pour moi, j'ai appelé le premier chapitre « Celui qui... » baptise du Saint-Esprit, en me basant sur le verset 23 que je relis à Jean 1, verset 33. Jean dit, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et dans Proverbe chapitre 1, je vous donnerai mon esprit, je vous enverrai mon esprit à ceux qui se convertissent, à ceux qui se tournent vers lui. Tournez-vous vers moi et vous recevrez l'esprit. Ensuite, au chapitre 2, pour moi, j'ai mis Jésus, le don de Dieu. C'est le portrait du don de Dieu, parce que c'est lui qui donne la sagesse. Il y a un chemin pour trouver la sagesse, mais en final, on apprend que c'est lui qui vient à notre rencontre et qui nous donne la sagesse. C'est le verset 5 qui m'amène au chapitre 4 de Jean, verset 10 et suivant, si tu connaissais le don de Dieu. Le chapitre 3, je crois vous l'avoir dit, pour moi, j'ai mis, parce qu'il y a tellement de choses dans ce chapitre 3, c'est Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Le chapitre, c'est Jean 14, verset 6. Le chapitre 4, c'est Jésus, lumière du monde. Verset 18 du chapitre 4 des Proverbes, Jean, chapitre 8, verset 12. Le cinquième chapitre, c'est Jésus, le
bon berger pour moi, dont la voix nous garde de suivre un étranger. Nous connaissons sa voix et nous n'irons pas vers les étrangers. Vous pouvez mettre autre chose pour vous. C'est Jean, chapitre 10. Il nous préserve de l'homme cruel, il nous préserve du mercenaire qui ne nous délivre pas, et du voleur et du larron, tout cela nous sommes préservés par le bon berger. Mais celui qui n'est pas le bon berger, bien, c'est un voleur et un larron, et qui nous conduit dans les chemins de mort. Le chapitre 6, pour moi, je l'intitule « Jésus, mon seul maître ». Qui nous enseigne que nous n'avons pas à quoi ? À cautionner et d'autres choses. Hein? Et c'est le maître. Vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. C'est Matthieu 23, verset 8. Nous sommes à l'école de ce maître. Le chapitre 7, moi je l'appelle l'hôte divin. Jean chapitre 14, verset 21. Il veut habiter, lui, chez nous. Il veut venir chez nous, dans notre demeure. Et s'il est vraiment chez nous, en nous, Père, Fils et Saint-Esprit, comme il l'est dit dans le chapitre 14 de Jean, verset 21, « Celui qui m'aime, il gardera ma parole. Et celui qui garde ma parole, oui, c'est celui-là qui m'aime. » Et celui qui m'aime, mon Père, l'aimera, nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. Alors, quand on a reçu le Seigneur et que le Seigneur est en nous, est-ce qu'on a envie d'aller se promener dans les rues ? On a quelqu'un, on est habité et on est tellement bien avec lui qu'on est plus curieux de voir vraiment ce qui se passe dans le monde et on évite bien des tentations et en tout cas celles de la femme étrangère. Nous avons de la visite. Mais une visite qui reste pour toujours chez nous, alors nous sommes pris. Nous disons non. Et nous ne laissons pas le Seigneur chez nous, puis nous, nous allons dehors. Mais c'est souvent ce que les chrétiens font. Et ils pensent qu'ils le retrouveront le soir. L'hôte divin. Le chapitre 8, c'est Jésus notre sagesse. 1 Corinthiens 1, verset 24. Le chapitre 9, c'est Jésus, notre nourriture et notre breuvage. Hein? C'est Jean, chapitre 6, verset 47 à 58. C'est le festin auquel nous sommes conviés. Et nous mangeons le pain, nous buvons à la coupe du Seigneur, quand nous sommes à sa table. Au festin de l'amour. Voilà pour répondre à vos questions. Et chapitre 10, c'était le juste. Chapitre 11, c'était l'homme bon. Et je pense qu'hier soir, en particulier, vous vous êtes aperçu que nous n'avons fait que survoler, comme je le disais à deux reprises, à haute altitude, notre texte. Nous n'avons fait qu'entrevoir certaines vérités, comme quand on est très haut. Une fois j'étais à 20 000 mètres d'altitude, eh bien, on ne voyait pour ainsi dire rien, ou très peu. Alors il faut réellement descendre. Alors nous avons survolé, mais bien sûr, plus on va haut, ceux qui ont pu aller jusqu'où ? Jusque la Lune. Ben, ils ont vu de la Lune la Terre. Hein. Ils ont pu prendre même des photos. Alors, ils ont vu des grands contours. Hein. Mais c'est quand même formidable d'avoir pu photographier ces choses et établir ainsi des... Comment on voit la Terre depuis en haut ? Mais ils n'ont pas vu les fourmis. Forcément. Alors, si vous voulez voir les fourmis, il faut descendre de la Lune. Alors, il faut descendre. Mais ça, c'est à vous de descendre. Il faut peut-être de l'humilité. Alors, descendez. Si vous avez entrevu quelque chose qui avait un certain contour, qui vaut la peine d'être visité, alors vous descendez, vous revenez vous-même sur ce texte, et c'est ce que vous ferez, je l'espère, après le camp. Ce que vous avez entrevu hier soir, eh bien, va déjà un peu vous intéresser. Alors, à vous de ralentir votre vitesse, à vous de descendre pour mieux distinguer le paysage et de vous poser là où vous désirez vous arrêter sur le texte qui vous a touché. Hier soir, nous avons entrevu ce qui est en abomination et qui fait horreur aux yeux de Dieu. C'était les fraudes et le vol, par exemple. La tromperie d'un marchand qui pèse scrupuleusement, mais avec une fausse balance et avec de faux poids. D'une manière générale, on peut dire que tout l'enseignement de ce chapitre 11 concerne les rapports du juste avec la société humaine. Dans ce chapitre 11, malgré qu'il y a beaucoup de versets qui vous semblent ne pas coller les uns aux autres, il y a pourtant une pensée générale. Et quand on s'y arrête, on voit que c'est surtout les rapports d'un croyant, d'un homme qui veut suivre la sagesse avec la société. Comment j'ai à avoir des relations? On est dans le monde, on n'est pas hors du monde, on est dans le monde. Le Seigneur a dit, je ne vous ôte, je ne te demande pas que tu les ôtes du monde, mais que tu les gardes du mal. Il y a une manière de se conduire dans ce monde. Alors, cette manière de se conduire, d'avoir des rapports avec la société, vous la trouvez particulièrement dans ces versets du chapitre 11 que nous n'avons fait, en effet, qu'effleurer. Il faut vivre dans l'humilité. Ça nous garde de quoi? De l'orgueil. Et ça, c'est un terrible danger. Soyez humble dans ce monde. Soyez humble avec les inconvertis. Ne pensez pas, ne dites pas tout de suite, moi je suis un sauvé, vous êtes encore perdu. On aime bien dire ça. Mais ça les écœure. Ça les écœure, les gens. Parce que vous, alors vous êtes un sauvé, puis les autres, eh bien, vous les envoyez déjà en enfer. Parce que vous voudriez qu'ils se convertissent tout de suite, puis s'ils vous résistent, bien vous leur faites, comme je le dis souvent, les grimaces des damnés. Vous leur montrez comment ils auront à souffrir dans les flammes éternelles. Et puis, vous leur donnez l'impression que Dieu est le roi des rôtisseurs et qu'il aime les hot dogs. Faisons attention. Mais nous, on ne sera pas barbecue, mais les autres. Parce qu'on a encore cette idée très moyenâgeuse de l'enfer. Le feu qui ronge, on n'a pas compris que c'est une brûlure d'amour. Les peines éternelles, c'est une brûlure d'amour. On ne peut pas consommer l'union, mais on brûle comme l'homme qui voudrait se marier, puis qui brûle, qui ne peut pas consommer l'union. Dans l'éternité, eh bien, tout le monde sera au pied du Seigneur, les damnés aussi. Mais il voudrait bien avoir l'union, mais cette union, il fallait la faire quand? Maintenant, c'est trop tard. Alors on brûle. C'est un feu qui ronge. Alors oubliez cet infantilisme, ces idées moyenâgeuses d'un enfer avec des diables fourchus, cornus, qui vous piquent, j'ose pas dire quoi, pour ne pas vous scandaliser, n'est-ce pas? Mais enfin, vous savez où on peut vous piquer avec des fourches. Mais enfin, qu'est-ce qu'on vous a montré? Ah, vous me direz, les fourches dans les yeux, oui. On piquait dans les yeux, puis on m'a acheté dans la marmite. Comment voulez-vous que les gens croient? Tant qu'il y a un petit peu d'instruction, ils ne croient plus. Et puis, alors demandez au Seigneur aussi de vous purifier de toutes ces images qui étaient faux et qui ont fait qu'on n'a plus cru au diable. Que le diable, c'est une invention des pasteurs, des curés, et puis c'est pour nous faire peur, toujours peur. On voit le diable partout, alors finalement on n'y croit plus. C'est une caricature. Et pourtant le diable est une réalité. Nous y croyons. Je ne suis pas du tout d'accord avec les théologiens qui ont écrit « Liquidation du diable ». Le diable est une réalité. Et voyez-vous, les peines éternelles aussi. Mais il voudrait vous donner la joie éternelle, alors acceptez l'union. C'est vous qui ne la voulez pas, cette union avec le Seigneur. Alors ne vous plaignez pas après, si de l'autre côté il n'y a plus de possibilité. Et si vous mourrez dans votre péché, mourir dans son péché, c'est mourir dans notre état naturel, c'est avoir encore peut-être les mêmes désirs, mais on n'a plus les membres pour les satisfaire. Tandis que, tant qu'on est dans notre état naturel, les gens du monde, ils trouvent des délices dans le péché. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des membres. Alors, ils satisfont leur convoitise avec leurs membres. Mais si tu meurs dans tes péchés, tu n'as plus tes membres. C'est pourquoi, dans l'au-delà, avant même le jugement, ils sont dans la souffrance. Parce qu'ils ont les mêmes désirs, ils sont morts avec tous ces désirs impurs, mais avant, ils pouvaient encore les satisfaire plus ou moins parce qu'ils avaient des membres. Mais maintenant, ils n'ont plus de membres, ils ne peuvent plus se satisfaire. De sorte que c'est un tourment. C'est un tourment. Ils sont dans les tourments. Selon Jésus, qui nous a donné une image de ces tourments, dans quelle parabole ? La parabole de Lazare et du mauvais riche. Bon, alors, vous voyez, ça se tient ces choses. Mais il nous faut abandonner certaines conceptions qui viennent de nos traditions, pour retrouver la vérité et avoir un langage qui puisse être compris et aussi reçu. Parce que Jésus n'a jamais biaisé, Jésus n'a jamais dit des folies. Or, dans notre théologie, on a dit un tas de folies. Et puis toujours, on a voulu employer des grands moyens pour impressionner les âmes. Le Saint-Esprit, voyez-vous, quand il convainc une âme de péché, il fait une œuvre solitaire souvent, dans le silence. C'est pas dramatique, mais c'est une conviction profonde qu'on a dans son cœur. Puis ça est venu tout d'un coup. Puis tout à coup, on a horreur de soi. J'ai horreur de moi. On a entendu sa parole, puis tout à coup, on l'a vu. On a vu le Seigneur dans sa sainteté, puis on se voit dans notre laideur. Révèle ton livre à ma foi, rends-le vivant, ô Dieu, pour moi, que je m'y vois en ma laideur et dans ta beauté, mon Sauveur. L'humilité va nous garder de l'orgueil, la justice pratique et non la méchanceté dans nos relations avec le monde. Et puis, quant à la ville dans laquelle nous habitons, nous travaillerons à son bien-être. Recherchez la paix de la ville, car dans sa paix sera votre paix, nous dit le prophète Jérémie. Là où nous sommes, tant que nous sommes sur la terre, nous devons travailler aussi au bien de la ville, parce que nous bénéficions de tous ces avantages. Mais on passe dans le monde, on use du monde, comme dit saint Paul, comme n'en usant pas. On n'est pas attaché au bien de ce monde. On est bien obligé d'en avoir, hein, mais on n'y met pas notre cœur. Mais on est reconnaissant quand même de ce que nous avons dans ce monde, parce qu'on ne peut pas vivre dans l'isolement complet. On a besoin les uns des autres, on a besoin de la société. Nous ne pouvons pas devenir des gens absolument séparés. C'est séparé de la souillure, mais pas séparé des âmes. Ce n'est pas le contact avec les âmes qui nous souille, c'est de garder du péché dans son cœur. Ça, croyez-le. Jésus, il était proche de toutes les âmes. Il acceptait toutes les invitations. Il allait chez le pharisien. Mais est-ce qu'il était pharisien ? Non. Il allait chez le publicain. Est-ce qu'il était publicain ? Non. Il était lui-même. Et parce qu'il était lui-même, il n'avait pas besoin de parler beaucoup. Un Zachée publicain qui était un voleur, quand il a vu la présence de Jésus chez lui, parce qu'au fond, personne ne désire rester un voleur, on voudrait bien être délivré. Et il désirait voir Jésus. Puis voilà que Jésus lui dit, je vais venir chez toi. C'est tellement beau. Est-ce qu'il y a ce désir de connaître Jésus un peu mieux, même si vous êtes encore un peu voleur, même si vous êtes encore tordu, ben, dites, ayez ce désir, je voudrais le voir, lui. Et il vient. Puis tout à coup, Zachée dit, il est transformé parce qu'il le voit, et puis il lui dit, eh bien, Seigneur, je donne la moitié de mes biens. Voilà son avarice qui tombe. Puis tout à coup, il dit,
Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. Hein? Alors, c'est extraordinaire. Voilà ce que la présence de Jésus fait dans un cœur. Alors que tant de gens, quand ils l'ont vu entrer chez Zachée, se sont mis à critiquer le Seigneur et à dire, il va chez un pécheur, il va chez ce voleur. Et Jésus allait chez ce voleur pour que ceux qui critiquaient tant, le critiquaient tant, reçoivent ce que le voleur leur avait pris, et même qu'ils reçoivent le quadruple de ce qu'il leur avait volé. Voilà, ne jugez pas. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est l'homme bienfaisant, comme nous le verrons, un homme de bien. Il veut le bien, il poursuit le bien. Alors, gardons-nous, comme nous l'avons vu dans l'épilogue, de tout égoïsme. Maintenant, ce chapitre 12, je dirais que je mets toujours bien du temps à y arriver, mais ça fait rien. Je sais ce que des jeunes me disent après 40 ans, quand je donnais des enseignements, pas sur ça, mais sur autre chose, dans des camps universitaires à Saint-Brévin et ailleurs. Ils me disent, tu sais Gaston, on emploie encore nos notes aujourd'hui de tes messages pour apporter la parole. Et c'est absolument touchant. Ce sont tous des gens qui sont haut placés et ils disent, c'est encore la parole. J'ai retrouvé celui qui est président de la faculté d'Aix-en-Provence et qui s'est converti dans un camp là-bas à Saint-Brévin, qui me disait il y a un mois et demi, enfin Simone, tu étais là, et Annick, je crois, aussi à des réunions à Aix-en-Provence. Eh bien, lui me disait, après la dernière conférence, c'est le message que nous avons entendu et qui nous est resté. Et il encourageait, il disait, continue. Alors voilà, de temps à autre, il y a des encouragements et l'enseignement est resté parce qu'on est revenu sur ces choses. Vous redire les mêmes choses, cela n'est pas pénible, c'est votre sûreté. Ce chapitre 12, que nous ne pouvons que survoler, comme on l'a dit, à haute altitude, mais nous espérons que vous repérerez des points et que vous voudrez voir ces choses de plus près. Je l'ai dit, ce ne sont pas les mêmes points qui vous intéresseront tous, mais je veux espérer que si on a encore un partage, vous pourrez nous dire ce qui vous a frappé dans ces journées, ou ce que vous voudriez revoir. Dans ce chapitre, nous voyons les principes de la sagesse mis en action, non plus tellement dans la vie sociale, mais dans la vie domestique. Vous l'avez certainement remarqué. Alors qu'au chapitre 11, nous voyons plutôt ces principes mis en pratique dans la société. Et ces principes sont entièrement opposés à ceux des méchants, de ceux qui ne se soucient pas de Dieu et de sa parole. Il doit y avoir un contraste entre notre manière de vivre, notre manière d'être, notre manière de parler, notre manière de penser, notre manière de marcher. Nos goûts même doivent être différents de ce que vous voyez dans le courant du monde. Et c'est ce qui m'afflige bien souvent, c'est de voir qu'on est porté à suivre le courant du monde, alors que le Seigneur nous appelait à le remonter. Quelle sorte de poisson êtes-vous? Est-ce que vous êtes un poisson pur ou un poisson impur? Vous savez ce qui caractérisait les poissons purs? Des écailles et les nageoires. Pourquoi les écailles? Parce que ça empêche donc l'eau de pénétrer. Vous n'êtes pas une éponge, mais vous êtes vous avez des écailles.
Vous n'êtes pas imbibé par le monde.
Vous êtes dans le monde, mais avec des écailles. Et puis, au lieu d'être emporté par le courant, vous avez des nageoires, vous pouvez remonter le courant. Ce n'est pas nécessaire que vous suiviez le courant. Certes, nous sommes toujours des pécheurs, j'ai toujours la possibilité de pécher, mais ce n'est plus nécessaire que je pêche. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'est plus nécessaire que je pêche. Mais pour que je ne pêche plus, eh bien, il y a certaines conditions à remplir. Si je ne veux pas les remplir, je pêche. Parce que depuis ma conversion, je ne m'améliore pas, loin de là. Et j'ai compris cela, alors je sais que si je vis d'une certaine manière, je tomberai dans le péché. Il n'y a pas de miracle. Le Seigneur me promet de me garder, mais dans son chemin, dans l'empreinte de ses pas. Maintenant, si je veux faire aller à l'aventure, parce qu'on vous dit la vie de la foi, c'est une aventure. Vous croyez à ça? Le slogan de plusieurs, vivre par la foi, la vie de la foi, c'est une aventure. C'est pas vrai. La vie de la foi, c'est une obéissance. Comprenez-le une fois pour toutes. La vie de la foi, c'est pas une aventure. Abraham n'est pas parti à l'aventure. C'est le père de la foi. Mais qu'est-ce qu'il a entendu? Il a entendu un ordre. Lève-toi, sors de ton pays et de ta parenté. Il a obéi à une parole du Seigneur. Et il est allé. Hein, ne sachant où il allait, mais sachant qu'il avait été appelé à sortir. Et à l'étape suivante, qu'est-ce qu'il a trouvé? Le Seigneur. Alors vous pouvez suivre les étapes d'Abraham, c'est quelque chose de merveilleux. Hein. À chacune de ces étapes, le Seigneur était là et il n'était pas en retard. Mais le Seigneur est à l'heure. Mais il ne vient pas non plus en avant. Comprenons-le. Alors pour nous, souvent, c'est le dernier quart d'heure qui est le plus difficile à passer. Mais vous pouvez être sûr que le Seigneur sera à l'étape où il vous demande de parler. Mais il sortit ne sachant où il alla. La foi n'est pas une aventure, mais une obéissance. Et la foi, elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17. Ayez bien ces choses dans votre cœur, que ce ne soit plus seulement dans vos Bibles. Alors, notre manière de vivre est opposée à la manière de vivre des méchants qui sont sous l'influence de Satan, qui est le prince de ce monde. Qu'est-ce qui inspire ce monde? C'est Satan. Qu'est-ce qui doit inspirer le chrétien? C'est le Saint-Esprit qui nous met en relation avec le trône, avec le Père et avec le Fils. Alors, nous voyons très rapidement, après avoir donné les grandes lignes de ce chapitre, nous voyons très rapidement ces versets. Celui qui aime la correction, ou d'autres versions disent l'instruction, d'autres disent la discipline, celui qui aime la discipline, ben, qu'est-ce qu'il doit être pour aimer la discipline? Il est un fils. Hein? Il sait qu'il a un fils, alors il accepte la discipline d'un père. Si je ne suis pas fils, eh bien, je suis un bâtard. Et le Seigneur ne me disciplinera pas. Je ne suis pas à lui. Il laisse courir, faire ce que je veux. Que je ne veux pas de lui. Mais si je deviens fils, eh bien le Seigneur veut me faire participer à sa sainteté et il me discipline. Et j'en suis heureux. C'est une bénédiction d'être discipliné. C'est une bénédiction d'être repris par le Seigneur. Heureusement que le Seigneur nous reprend. Parce qu'un enfant dans une famille où il n'est jamais repris, qu'est-ce qu'il vous donne en finale? Du chagrin. C'est absolument ça. Alors, si vous aimez votre enfant, vous saurez le corriger avec mesure et dans la douceur, mais aussi la fermeté du Seigneur. Celui qui aime la correction aime la science. C'est le vrai intelligent. Je suis reconnaissant qu'on me montre mes fautes et qu'on me donne peut-être de m'en souvenir. Par une certaine correction qui me rappelle que je ne dois pas retomber là-dedans. Celui qui est la réprimande, qu'est-ce qu'il est? Stupide. Il est stupide.
Il n'a pas compris que c'est en amour que le Seigneur nous chasse. Ce n'est pas de la colère. Vous n'avez plus affaire avec la colère de Dieu quand vous avez accepté Jésus. Il est dit dans Ésaïe 12, il n'y a plus de colère. Il n'y a plus de colère. Il était en colère contre moi, mais sa colère s'est détournée. Chapitre 27 d'Ésaïe aussi, il n'y a plus de colère. C'est tellement merveilleux. Mais alors, il y a les châtiments de la discipline. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel. Et là, je vous laisse trouver des exemples dans les Écritures. Et c'est quelque chose d'avoir obtenu la faveur de l'Éternel et de continuer de l'obtenir. Vous êtes dans la faveur de Dieu si vous marchez avec lui. Nous avons trouvé accès, dit saint Paul, à cette faveur dans laquelle nous sommes. Romains chapitre 5, versets 1 et 2. Justifiés sur le principe de la foi, nous avons la paix avec Dieu. Quant à notre passé, la paix couvre toutes nos offenses. Le sang du Christ a tout effacé. Et quant à notre présent, eh bien, nous avons trouvé la faveur de Dieu. Vous êtes dans la faveur de Dieu. Si je peux dire ainsi, vous êtes en état de grâce. Vous êtes les favoris du Seigneur, vous êtes dans la faveur de Dieu. Ça, c'est pour le présent. Et quant à l'avenir, qu'est-ce qu'il reste ? La gloire. Paix pour le passé, faveur pour le présent, sa grâce pour le présent, et puis pour l'avenir, sa gloire. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. L'homme de bien obtient la faveur. Qui est-ce qui avait la faveur du Père sur la terre ? C'était Jésus. Et il était l'homme de bien. Selon ce qu'on disait à Jérusalem, dans ce fameux chapitre 7, dont je vous ai lu quelques versets ce matin, ceux qui commencent un petit peu à connaître nos habitudes doivent comprendre qu'il y a entre la lecture du matin et ce qui vient dans la journée un lien. Alors, vous n'aurez pas besoin de me demander le titre si vous avez pigé, si vous avez compris. Il y a un lien, ce n'est pas une simple lecture comme ça. Je demande toujours au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise ce matin, qui correspond à ce qu'il doit y avoir une correspondance dans tous ces messages. Ça doit finalement faire un tout. Le Saint-Esprit va lier la gerbe. Et même si on a été plongé dans l'Ancien Testament, vous réaliserez que vous avez reçu un enseignement qui venait aussi du Nouveau Testament. Puisqu'on a dit que les proverbes correspondaient, au fond, bien souvent à l'Évangile, au sens de Jésus dans l'Évangile, et qu'ils correspondaient aussi aux parties pratiques des épîtres de Paul ou de Pierre. L'homme de bien obtient la faveur, qui était le Seigneur, qui a obtenu la faveur de Dieu. Dieu a dit au baptême, c'est bon. Bien-aimé, en qui je trouve tout mon plaisir. Mais Abel aussi avait trouvé la faveur de Dieu. Mais Abel est un type de Christ. Il avait la faveur de Dieu. Alors prenez à travers la Bible les hommes qui ont eu la faveur de Dieu. David choisit parmi les fils d'Isaïe, le Seigneur avait dit ce jeune homme, et il avait posé un regard favorable sur lui, il l'aimait et il en a fait le roi d'Israël à la place de Saül, l'homme selon la chair. Mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. Eh bien, je viens de parler de David, qui a été l'homme plein de malice dans son règne ? C'était Saül, et il a été condamné. Ça, vous pouvez être sûr. Ça, c'est une règle générale. Verset 3. L'homme ne s'affermit pas par la méchanceté. Est-ce que vous en êtes convaincu ? Vous croyez parce que vous voyez des méchants qui prospèrent, puis vous portez envie aux méchants. Mais vous croyez qu'ils vont s'affermir par la méchanceté ? C'est une tentation pour vous. Vous portez envie aux méchants. sachez-le définitivement que l'homme ne s'affermit pas par la méchanceté. Qu'est-ce qui nous affermit? C'est le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Relisez 1 Pierre chapitre 5, verset 10. C'est lui qui vous affermira, le Dieu de toute grâce. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous établira sur un fondement inébranlable et il vous affermira. C'est le Seigneur, par son esprit, qui nous affermit. L'homme ne s'affermit pas par la méchanceté, mais la racine des justes ne sera pas ébranlée. Pourquoi ? Parce que la racine des justes, elle ne plonge pas, comme le dit Mauriac au sujet du roman, dans le péché. La racine des justes, elle plonge où ? Psaume 1er, elle plonge près des courants d'eau. De sorte que, nourrie par ces courants souterrains, même dans l'année de la sécheresse, cet arbre ne cesse de porter du fruit. Pour quelle raison? Parce que la racine plonge vers les courants d'eau. Alors, il ne cesse pas de porter du fruit, son feuillage est toujours vert. Alors, votre racine, elle plonge où? Que ce soit vraiment dans la parole. Est-ce que votre feuillage est desséché? Ben, je comprendrais si votre racine plonge dans les romans. Mais si votre racine plonge dans la parole vivante et permanente de Dieu, vous porterez du fruit. Ce n'est pas possible autrement. Ne me dites pas le contraire. Ce n'est pas possible autrement. Mais où plonge votre racine? Vous êtes juste. Mais où plonge votre racine? La racine des justes, elle plonge près des ressources. Elle ne sera pas ébranlée. Alors voilà une femme. Verset 4. Il est heureux d'en trouver une. Mais cette fois, elle est vieille, celle-là. C'est pas un anneau d'or, c'est une couronne. C'est pas un anneau d'or au nez d'un pourceau. Une femme vertueuse. Comment? Vous aurez des tribulations dans la chair si vous vous mariez. C'est ce qu'a dit l'apôtre Paul. Mais toutefois, il ajoute que ceux qui interdisent de se marier ont une doctrine de démon. Alors supportez. La souffrance est toujours bonne. Elle nous amène à nous juger, à nous humilier, à nous remettre en question. C'est bien. Et à nous garder petits à nos propres yeux et humbles. Une femme vertueuse. Qu'est-ce que c'est une femme vertueuse? Qu'est-ce que c'est que la vertu? C'est la force. Une femme vertueuse. Et vous allez trouver son portrait où? On me vous dirait. C'est seulement chapitre 31. Oui. Parce que le Saint-Esprit veut finir avec une femme. Alors, ne vous découragez pas. Mais une femme vertueuse, qu'est-ce qu'elle est? Elle est la couronne de son mari. La femme qui joint la douceur et la force, la douceur de son sexe et la force de l'âme et du cœur, c'est la couronne de son mari. Mais la femme belle, et qui est dépourvue de sang, ben c'est l'anneau d'or au nez d'un pourceau. Nous l'avons vu. Et là, j'aurais pu vous parler beaucoup de cette coutume en Orient. Eh bien, les femmes se mettent un anneau dans la narine droite. Hein. C'est l'ornement favori des orientales. Mais la femme vertueuse, ce n'est pas un anneau dans le nez, c'est une couronne. Marc,
qu'est-ce que c'est une marque de quoi la couronne? Marque de la noblesse et de la souveraineté. La femme qui est vraiment femme, qu'est-ce qu'elle est dans le foyer? Elle est reine. Pas le mari qui est le roi dans la cuisine. Et dans le foyer, l'âme du foyer, c'est l'épouse, c'est la femme. Elle a sa place. Et quand le mari veut prendre sa place, il s'en s'adapte. Alors, que chacun garde sa place. À l'homme, la force et le commandement, à la femme, la douceur et la persuasion. Allons plus loin. Vous voyez, alors, si c'est vrai cela, quelle attention nous devons apporter dans le choix d'une épouse? Celle qui fait honte, qu'est-ce qu'elle est? La caridaison, une autre version dit la pourriture des eaux. Une femme belle mais qui fait honte, c'est une pourriture, c'est une caride des eaux. Vous pouvez méditer longuement là-dessus. Verset 5. Les pensées des justes ne sont qu'écoutées, les desseins des méchants ne sont que fraude. Et je crois que toute notre vie dépend de nos pensées. C'est pourquoi l'apôtre Paul demande que toutes nos pensées soient amenées à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Si nos pensées sont amenées, sont rendues captives à l'obéissance du Christ, eh bien, que seront nos paroles? Le prolongement audible de nos pensées. Que seront nos actions? Le prolongement visible de nos pensées. C'est d'après ce que je pense que je parle. C'est d'après ce que je pense que j'agis. N'est-ce pas? Alors, Seigneur, je te demande que je sois un homme qui veille sur mes pensées. Et que je me juge quand je me laisse aller à des pensées coupables. Là, je sens que je contrise le Saint-Esprit. Nous pouvons tous nous laisser aller à des pensées coupables. Mais les pensées coupables, elles nous viennent de quoi? De ce monde. De ce monde où le péché s'étale partout. Alors, vous ne pouvez pas avoir certaines annonces, certaines choses, sans que, automatiquement, il y ait des pensées qui vous viennent. Parce qu'on a un cœur, désespérément, malin, et le diable sait bien que même les chrétiens, il peut les avoir. Alors, les pensées du juste ne sont qu'équité. Je veux maintenant mettre de l'ordre dans mes pensées. Alors, comme je ne peux pas, moi, je dis, Saint-Esprit, prends la clé de mes pensées et agis. Car les desseins des méchants ne sont que fraude. Mais maintenant que Jésus est venu, eh bien, même si vous voyez dans l'Ancien Testament des hommes qui ont menti, ou des femmes qui ont menti, et que Dieu a béni quand même, ne dites pas, comme j'ai entendu un prédicateur dire un jour, mais nous pouvons bien mentir. Les sages femmes, de l'Égypte, hein, elles ont menti au Pharaon. Qu'est-ce qu'il a dit que Dieu leur a fait? Des maisons. Alors mentez, Dieu vous fera une maison. Mais pas du tout. Vous vous rendez compte, ces femmes, elles ne savaient pas comment s'en tirer. Mais elles avaient fait un acte bien. Elles n'avaient pas mis à mort les Hébreux. Alors le Seigneur en a tenu compte. Mais il ne leur a pas fait ça parce qu'elles ont menti. Elles n'avaient pas d'autres moyens. Comprenez-vous? Alors qu'un prédicateur évangélique vient de dire, on peut mentir puisque les sages-femmes ont menti. Puis le Seigneur les a bénis. Alors on tolère le mensonge dans notre vie. On est tordu, hein. Et puis, on m'a dit aussi, on a donné un autre exemple. Qui est-ce qui a menti encore? Rahab. Alors, Rahab, elle a eu la vie sauve, elle a pu entrer dans le pays de Canaan et tout, parce qu'elle a menti. Non, mais elle était une cananéenne, elle ne savait pas grand-chose, elle. Mais elle a eu la crainte de Dieu. Mais nous n'avons pas à imiter Rahab dans son mensonge, nous avons à l'imiter dans sa foi. On a des degrés de connaissance divers. Alors, Dieu bénit, non pas parce qu'il voit que tout est noble en nous. Si il fallait que Dieu attende que tout soit en règle en nous, vous seriez des bénis? Dites-moi un peu. Il y en a un qui peut se lever ici, ou une. Il dit, mais moi, tout est noble. C'est pour ça que je suis béni. Donc, je suis béni. Mais le Seigneur nous bénit malgré nos lacunes. Et si ne pensait qu'à lui-même, je dis souvent parce que c'est dans Job qu'on le trouve, si Dieu ne pensait qu'à lui-même et qu'il retirait son esprit et son souffle, qu'est-ce qui se passerait sur la terre? Toute chair expirerait en sang. Il n'y en a pas un qui survivrait, pas moi en tout cas. Toute chair expirerait en sang. Donc Dieu patiente parce qu'il veut continuer son œuvre. Il y a déjà tellement travaillé, il ne va pas détruire. Prenez confiance, prenez courage, mes bien-aimés. Dieu vous aime. Ne vous découragez pas des lacunes que vous avez eues dans votre vie. Le Seigneur ne vous a pas abandonné. Vous êtes là. C'est que vous n'avez pas été éprouvé au-delà de vos forces. Parce que si vous aviez été éprouvé au-delà de vos forces, vous ne seriez plus là. Le Seigneur vous a béni. Alors c'est un message tonique que le Seigneur vous donne. Les paroles des méchants sont des embûches pour verser le sang, mais la bouche des hommes droits est une délivrance. Voyez-vous, les méchants, ils ne pensent qu'à détruire, qu'à verser le sang. Et c'est le sang de qui, souvent? Le sang des innocents. Eh bien, nous, quand nous voyons tous ces innocents massacrés, nous devons élever la voix pour parler. Et chercher à apporter la délivrance. Nous sommes responsables. Il y a des choses que nous devons dire, il y a des moments où nous devons nous taire, mais il y a aussi des choses où nous devons parler, même si cela nous compromet. Parce que la bouche des hommes droits est une délivrance. Quand tout à coup Dieu suscite dans le gouvernement un homme droit qui ose encore dire la vérité, on doit vraiment prier pour cet homme, parce que ce n'est pas facile d'être dans un gouvernement. Nous n'avons peut-être pas, nous, à vouloir être dans le gouvernement, mais si nous savons qu'un homme, avec les lumières qu'il a eu, lui, la pensée qu'il pouvait faire du bien là, eh bien, prions pour cet homme. Ne jugeons pas. Et soyons heureux qu'il y ait aussi des hommes auxquels Dieu a donné cet appel, cette vocation. Nous avons eu en Suisse, vous savez qu'on a été très épargnés pendant les deux guerres, mais on avait à notre gouvernement des hommes, vous savez ce qu'ils faisaient? La fameuse nuit du 10 mai, quand la Suisse aurait dû être envahie, alors que justement la charnière de Sedan a craqué et que les Allemands ont pu passer la ligne Maginot, eh bien on avait dit à Berne, on avait des renseignements très précis que Hitler et ses armées étaient là derrière notre frontière et voulaient traverser la Suisse. Eh bien, le Conseil fédéral, avec le général Guizan, que j'ai beaucoup aimé, et qui m'avait libéré d'un certain service, eh bien, ils étaient à genoux, à Berne, en prière, toute la nuit. Voilà quand même un gouvernement. C'est pas pour glorifier les Suisses, mais ils savaient encore, on a encore des hommes qui savent s'humilier, qui savent crier à Dieu pour tout le peuple dont ils ont la responsabilité. Vous voyez ça à l'ONU? ONU? Est-ce que vous les voyez prier avant? Eh bien, voilà. Et nous avons été bénis aussi quant au rationnement. Pour quelle raison? Parce que nous avions des hommes sages qui avaient prévu bien à l'avance que cette guerre venait et qui nous avaient obligés, quitte à donner aux pauvres pas seulement une ration, mais enfin un subside pour qu'ils puissent faire leurs provisions. Et tous les deux mois, on devait renouveler les provisions, hein, refaire les provisions et employer les anciennes pour que rien ne soit perdu. Et toutes les cartes d'approvisionnement étaient prêtes, de sorte qu'on n'a pour ainsi dire pas eu de marché noir en Suisse, parce qu'il y avait eu des gens intelligents et qui avaient la crainte de Dieu, ce qu'on a appelé le plan Wallen. Wallen était un homme remarquable, un croyant, un homme de Dieu. Et il a été employé. Et alors on n'a pas souffert du rationnement. Il y a eu le rationnement, mais il n'y a pas eu ce marché noir et qui a fait tant de riches et tant de misères. Comprenez-vous?
Alors, vous avez une responsabilité sociale. C'est pas de faire de la politique, c'est pas de vous mettre dans un parti, mais c'est de prier pour nos autorités, pour ceux qui gouvernent. Nous sommes ni de droite, ni de gauche, ni du centre, nous sommes d'en haut, messagers, ambassadeurs du Christ sur la terre. Nous ne nous mêlons pas de politique, mais nous sommes reconnaissants qu'il y ait des autorités et nous prions pour elles et nous voulons accomplir nos devoirs civiques. Mais d'abord, maintenant, nos devoirs domestiques. Verset 7. Renverser les méchants ne sont plus. Vous voyez Hitler, on en a parlé, et d'autres. Eh bien, leur méchanceté, oui, elle a fait des drames, mais tout d'un coup, ils ne sont plus. Tandis que la maison des justes reste debout. Et on pourrait donner 1000 exemples quand même, tôt ou tard. La maison des justes reste debout. Pour quelle raison? Parce qu'elle est bâtie sur le roc. Alors vous avez un trait de lumière par le Seigneur lui-même dans le sermon sur la montagne, sur la maison des méchants qui s'écroule. Elle avait très belle apparence, mais elle a sombré. Tandis que la maison des justes, qui est bâtie sur le roc, elle reste debout. Elle a pu traverser là sans faire. Les vents sont venus, les pluies sont tombées, mais la maison est restée debout. Un homme est estimé en raison de son intelligence. Et de nouveau, qu'est-ce que c'est son intelligence? C'est surtout de savoir se retirer du mal. Là encore, on s'est demandé souvent pourquoi la Suisse n'avait pas voulu entrer dans les Nations Unies, dans la Société des Nations, etc. Parce qu'elle aurait été liée à toute espèce de décision où elle ne voulait pas être. Et là, il y a aussi quelque chose qui vient de nos pères. Dans la fondation de la Confédération en 1291 en Suisse, ils ont commencé par mettre « Au nom de Dieu, Amen ». Voilà comment les hommes qui se sont réunis sur la colline du Grutli, au bord du lac des Quatre Cantons, ont commencé leur pacte. « Au nom de Dieu, Amen ». C'est des choses dont Dieu se souvient. Il bénit jusqu'à 1000 générations. On n'a pas eu honte du nom de Dieu. Alors que, dans certains pays, on a voulu expurger le nom de Dieu, même des livres, et même on a changé, vous savez, une des fables de La Fontaine, hein, je crois, deviendra grand, pourvu, petit poisson, oui. Petit poisson deviendra grand, pourvu que Dieu lui prête vie, c'était écrit, hein. Et on a changé pourvu que l'on lui prête vie. Vous voyez, hein, il fallait enlever tout ce qui pouvait ressembler, rappeler Dieu, pourvu que l'on lui prête vie. C'est toujours nous. On a honte de Dieu. Moi, ce qui m'a quand même frappé aussi, c'est qu'un homme comme De Gaulle, qui a échappé à toutes ces choses, hein, pourtant, il y a eu des attentats. Je ne dis pas que tout ce que De Gaulle a fait était bien. Mais c'était un homme qui avait la crainte de Dieu. Il n'a quand même pas mené la France à la rue. Et celui qui a le cœur pervers, il est l'objet de mépris, tout ça. Mieux vaut être d'une condition humble et avoir un serviteur que de faire le glorieux et de manquer de pain. Vous les connaissez, ceux qui font les glorieux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait le glorieux ici? Ou quelqu'un? On fait les glorieux. Eh bien, non, on n'a pas besoin de faire le glorieux. Il vaut mieux être de condition humble. Voyez-vous, l'humilité, c'est tout ce qu'ils doivent avoir. Nous devons tous avoir l'humilité. Mais, peut-être, les pauvres, plus encore que les riches. L'humilité convient aux pauvres, pour quelle raison? Parce que ça correspond à leur état. Quand on est pauvre, on devrait être humble. Jésus était pauvre, mais il était humble, justement parce que ça correspondait. Mais quand on voit alors l'humilité chez le riche, c'est encore plus formidable en quelque sorte. Parce que le riche, quand on voit ce qu'on en fait, l'estime qu'on a pour un riche, en fait tout en étant hypocrite, mais quand quelqu'un est riche, qu'on a des relations avec ce riche, alors on sent bien. Eh bien, quand on voit un riche vraiment humble, eh bien, on peut tirer son sacrifice. Un riche qui est humble et qui emploie sa richesse non pas pour écraser, mais pour servir, pour donner libéralement l'humilité. Donc personne n'a à se glorifier. L'humilité est aussi bonne pour le riche que pour le pauvre. Le juste prend soin de sa bête. C'est une autre question. Il est ici de son bétail. Hein? Mais les entrailles du méchant sont cruelles. Faire du mal à des animaux, c'était contre celui qui les a créés. Quelqu'un qui est cruel avec un animal, c'est un méchant. Alors, faites attention aussi à la manière dont vous êtes avec ces animaux. Le juste prend soin de sa bête. Vous voyez, dans le Deutéronome, au chapitre 25, il était parlé aussi qu'il ne fallait pas... c'est du bœuf qu'il est question. Emmuseler le bœuf pendant son travail. Hein, pendant qu'il filait. Vous voyez, Dieu a donné, même, il s'est occupé même des bœufs. Il a donné des... Et où est-ce que vous voyez que Dieu s'occupe des animaux? Il nous donne même des leçons par les animaux. Interroge les bêtes et elles t'instruiront. C'était un thème d'un de nos points d'analyse. Le Seigneur est plein de compassion pour les animaux. Tous les animaux s'attendent à lui. Les petits du corbeau crient pour avoir leur nourriture. C'est lui qui donne la nourriture aux lionceaux, etc. Dieu s'occupe des animaux. Et prenez, entre autres, Jonas, lui, il n'avait pas pitié des gens de Ninive. Mais Dieu lui dit, toi tu as pitié du ricin qui a poussé en une nuit, qui a séché en une nuit, et moi je n'aurai pas pitié de ces 120 000 personnes qui ne savent pas distinguer leur droite et leur gauche, c'est les enfants, et des animaux. Parce que les animaux auraient souffert aussi dans la destruction de l'humide. Dieu se soucie des animaux, de sorte que le juste prend soin de sa bête. Mais le méchant, eh bien, il a des entrailles cruelles. Mais vous me direz, bien, nous, on n'a pas de bétail. Vous avez une auto? Alors prenez soin de votre auto. C'est votre bête. Hein? Parce que si vous ne la soignez pas, si vous ne contrôlez jamais l'huile, et puis si vous ne la remplissez pas, vous serez en panne sèche. Prenez soin de votre voiture. Ben, nous savons ce que sont les entrailles du méchant. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Et voyez-vous, j'entends toujours ce vieux sage de France qui me disait un jour, il y a bien longtemps, vous savez, notre grande erreur, il était à Tarbes, une ville de France où je faisais des conférences. Puis, j'aime toujours entendre ces vieux sages. Dès notre grande erreur, nous avons fait venir des Noirs en France. Nous leur avons donné la culture et nous aurions dû leur enseigner l'agriculture. J'entends encore. Hein, et c'était vrai. Hein. On a rempli la tête du temps de Jean-Paul Sartre à tous ces types qui sont venus et qui ont voulu dominer, régner après dans leur pays, et ils n'ont pas cultivé le sol. Alors que ce soit en Éthiopie ou que ce soit ailleurs, il y a la famine. Et pourtant, il y a des immenses étendues. Et on se dit, s'ils avaient fait comme Israël, il y aurait l'agriculture, il y aurait aussi la nourriture. N'est-ce pas ? Celui qui cultive son champ sera rassasié de pain. Vous voyez, il y a dans les proverbes des textes qui peuvent inspirer. Et ce qui me frappe quand je vais en Israël, c'est que les Juifs qui sont au gouvernement aussi, ils peuvent me dire ceci. Nous consultons la Bible. Nous consultons la Bible et nous essayons de réaliser ce que la Bible dit. Et ils sont peut-être pas même croyants, mais ils ont confiance dans ce que la Bible dit. Alors ils voient que dans tel endroit en Israël, autant d'Abraham ou d'Isaac, de Jacob et des autres, autant de David, il y avait telle sorte d'arbres qui croissaient bien. Et ils les remettent. Vous comprenez ? Et maintenant, ils mettent aussi les animaux qui étaient dans la Bible, ils les mettent là où il en est, il est mentionné. Alors il y a les animaux de la Bible, il y a les arbres de la Bible. C'est quand même assez passionnant et ça croît. Et alors, évidemment, il y a une nourriture. Quand vous voyez les marchés en Israël ou même en Jordanie, j'y étais il y a deux mois et demi, eh bien, j'ai rarement vu un marché comme celui de la ville de Samarie, un Nablus, qui est Sichem en quelque sorte. Le méchant convoite ce que prennent les méchants. Est-ce que vous convoiterez ce que prennent les méchants? Mais la racine des justes donne du fruit. Je n'ai pas à convoiter parce que, voilà, ils ont agi d'une façon méchante, d'une façon pas scrupuleuse, et ils ont gagné. Est-ce que je voudrais, moi, dire, j'aurais dû faire la même chose? Non, je ne vais pas convoiter le succès du méchant. Le succès du méchant, c'est son succès à lui, mais je sais qu'il va à la catastrophe. Alors, je ne perds pas mon temps. La racine des justes, elle plonge vers les courants d'eau et elle donne du fruit. C'est une vie avec le Seigneur. Il y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux. Et c'est vrai, ça. Alors, je demande au Seigneur de me donner des pensées justes, mais je demande aussi au Seigneur de mettre une garde à l'entrée de mes lèvres. Psaume 141, verset 2. Seigneur, mets une garde à l'entrée de mes lèvres, parce que je puis dire des choses qui vont blesser. J'ai dû m'humilier hier parce que j'ai dit quelque chose qui pouvait être mal compris. Bien oui, bien heureusement qu'on me le dit, et puis on peut s'en parler et cela se dissipe. Sans avoir eu l'intention de vouloir faire du mal, au contraire, c'était un peu plaisantant. Mais il y a des choses qui peuvent être mal reçues et je comprends ça très bien. Alors, bien, je m'en humilie et je demande pardon. Il y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux. Seigneur, garde-moi dans mes paroles. Parce que tu vois que une parole un peu folle, eh bien, ça peut faire du mal. Ça peut empêcher quelqu'un de dormir, peut-être. Alors, ça ne vaut pas la peine. Nous demandons au Seigneur de nous garder ça. Parce qu'il me frappe, c'est qu'Ésaïe, hein, il a dit, purifie. Je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Le péché des lèvres. Alors, lisez le chapitre 3 de quel épître au sujet de la langue? Jacques. Hein, et vous verrez, parce qu'il est dit que celui qui sait contrôler sa langue, il peut contrôler tous ses membres. Il est maître de lui-même si vous contrôlez votre langue. Alors, le péché des lèvres, faites attention. Mais le juste se tire de la détresse, que nous ayons des paroles justes, et nous aurons des délivrances. Par le fruit de sa bouche, de la bouche, on est rassasié de bien, et c'est vrai. Et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. Les insensés, ils pensent qu'ils sont sur une route droite, parce qu'ils n'ont pas l'esprit. Mais c'est une route crosse. Mais celui qui écoute les conseils, il est sage. Il ne se croit pas sage à ses propres yeux. Il connaît le Seigneur dans toutes ses voies. L'insensé, c'est celui donc qui n'a pas de relation avec Dieu, l'espoir à l'instant sa colère. C'est aussi un verset, ça, qui peut nous arrêter. L'insensé, l'espoir à l'instant sa colère. Voilà. Il y a quelque chose qui nous bouscule, on se met tout de suite en colère. On ne sait pas se contrôler. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas, je saute. Mais je suis sous poulet, c'est ma nature. Ma nature, spécifiée. Une excuse. Ma grand-mère était colérique. Mon arrière-grand-mère, pire. Bon. Alors j'ai hérité ça, c'est l'hérédité. Je ne peux pas lutter. Je suis comme ça. Non, l'insensé, l'espoir à l'instant sa colère. Mais celui qui cache un outrage est un homme. Sachons supporter, cacher un outrage. C'est prudent parce que Dieu va se donner une occasion. Celui qui dit la vérité proclame la justice, mais le fou témoin la tromperie. Voyez-vous, ça aussi, depuis que Jésus est venu, nous n'avons plus le droit de mentir. Il n'y a pas d'excuse au mensonge. Dans l'Ancien Testament, il y avait des excuses parce qu'ils n'avaient pas toute la lumière. Mais Jésus est venu et il est la vérité. Nous n'avons pas d'excuses. Et les mensonges d'un Abraham, les mensonges d'autres, eh bien, ce n'est pas à imiter. Ce n'est pas parce qu'Abraham a eu des défaillances qu'il est appelé le père de la foi. C'est parce que Dieu souligne les choses justes de la vie d'Abraham. Mais c'est un homme comme tous les autres. Et Élie aussi était un homme aux mêmes passions que lui. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive. Vous savez, faites attention. Les cœurs sont sensibles. Et des fois, par une parole, vous blessez. La parole, on fait du mal avec la langue. Tandis que si vous aviez dit, Seigneur, donne-moi vraiment une parole qui soit à propos, même avec des paroles bibliques, on peut faire du mal, on peut blesser. Eh bien, que ma langue ne soit pas un glaive, que je ne parle pas légèrement, que je retourne 7 fois ma langue avant de parler. La langue des sages apporte la guérison.